matin, c'est peut-être parce que pour certains, les vacances sont finies. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont encore en vacances, le pasteur Yannick aussi. Et vraiment, je veux vous souhaiter une bonne année. Pendant ce temps des fêtes où on se rappelle de la venue de notre Sauveur, c'est un bon temps aussi quand l'année finit, la fin de 2009, une nouvelle année qui commence, pour faire des bilans, n'est-ce pas? Puis si vous êtes comme moi dans ma famille, depuis très jeune, avec mes parents, le 1er janvier, on s'assoit en famille et on regarde toutes les bénédictions que Dieu nous a données dans la dernière année. Okay? Puis on les écrit, parce que parfois on les oublie, et on les écrit à travers les années. On continue à faire ça, Catherine et moi, sur une feuille de papier. Puis c'est bon à travers les années de voir comment que Dieu a été bon avec nous, n'est-ce pas? Puis si vous pensez aux bénédictions que vous avez eues cette année, je suis sûr qu'en 2009, les bénédictions sont nombreuses. Je regarde dans ma vie, je vois que Dieu a été bon dans le travail, dans la santé, dans notre vie spirituelle, les enfants deux jeunes filles qui grandissent, ma femme, et Dieu a vraiment été fidèle et bon cette année. Et certainement qu'en tant que l'Église de l'Espoir, vous êtes d'accord avec moi qu'on a eu plein de belles bénédictions cette année. Amen. Je pense juste à quelques-unes des bénédictions que j'ai pu penser. C'est sûr que je vais en manquer plusieurs. Je pense aux gens qui sont venus au Seigneur cette année à l'Église. Il y en a eu plusieurs. Je pense aux gens qui sont rajoutés à l'Église. Je pense au baptême. Il y a des gens qui sont faits baptiser. Je vois Wedley ici en avant. Il y a plusieurs personnes qui sont faites baptiser. Des gens qui sont devenus membres. Il y a eu beaucoup de beaux témoignages et je les entends souvent dans les petits groupes des gens qui sont entraidés les uns les autres. Et vraiment des beaux témoignages d'amour dans l'Église, les gens qui s'entraident les uns les autres. Il y a aussi le départ de Normand qui s'est fait dans l'harmonie et ça a suscité aussi des gens qui sont impliqués dans des mystères comme les finances, le bâtiment, la jeunesse est organisée. Il y a eu plein de belles choses. Il y a Danny qui est arrivé ici à l'église au niveau d'être dans le ministère en aidant Yannick. Il y a aussi des projets, des visions. On vous a partagé il y a quelques semaines Alexandre qui avait à cœur de participer dans l'évangélisation ici à l'Église. Et certainement que c'est une grande priorité pour nous dans les prochaines années. Et on voit que Dieu a été bon et à l'œuvre à chaque moment de la vie de notre Église. Mais vous savez, une année aussi, c'est quand on fait le bilan, peut-être que vous vous êtes dit, oui, mais l'année 2009 a aussi été quelques teintes de tristesse. Et ça arrive. Peut-être que vous avez fini l'année de justesse en vous disant, « OK, Seigneur, je m'accroche à toi. » Et je pense juste dans les derniers jours, je pense à ma sœur Suzanne, qui est ici avec nous, Suzanne Panton, qui a perdu son frère. Et on prie pour elle, la famille. Et c'est des moments de tristesse. Je pense même ce matin, j'ai appris ça ce matin, il y en a peut-être qui ne sont pas au courant, mais Jonathan et Judith Sirois, leur maison a passé au feu hier soir à Sorel. Donc, je sais que Yannick est avec eux. En fait, ils étaient chez Yannick à ce moment-là. Et leur maison a passé au feu. J'ai pas beaucoup plus. Oui. Ah, Judith est là. Donc, peut-être si tu veux nous dire un mot même. On va prendre tout de suite un temps pour prier. Oui, tout à fait. Donc, ce que j'ai dit à partager, c'est que la bénédiction quand même, c'est que la famille est toute saine et sauf. C'était du matériel. C'est arrivé, donc, on a dit hier soir, c'est une perte presque totale. Donc, c'est une perte totale de la maison et certainement l'Église, et vous allez voir dans le sujet d'aujourd'hui, ça rapporte. On veut être avec la famille aussi dans la prière. Et tout de suite, on va commencer avec un mot de prière en priant pour la famille Sirois. Oui, Seigneur, on veut s'approcher devant toi, Seigneur, et on pense à la dernière année, Seigneur. Il y a tant de joie, de bénédiction, Seigneur. Mais on sait que sur cette terre, on n'est ici que pour un moment passager et qu'il y a des moments de tristesse aussi, de souffrance. Et je pense à la famille Sirois que, Seigneur, tu viens de faire vivre cette épreuve. Merci, Seigneur, parce qu'ils sont tous sains et saufs. On voit ta main agissante. Mais, Seigneur, que tu puisses être avec cette famille, et non seulement eux, Seigneur, mais que tu mettes à cœur, dans l'assemblée ici, des gens qui ont à cœur de les aider, de la façon, toutes les façons possibles, Seigneur, qu'on puisse s'entourer, s'encourager les uns les autres et s'aider concrètement pour ton œuvre. On en compte prie. Amen. Vous savez, dans ces moments parfois de tristesse, peut-être la seule chose qu'on s'accroche en disant, Seigneur, je veux commencer l'année 2010 en m'en remettant à toi. Et il y a de l'espoir, parce que même si on ne sait pas ce que nous réserve l'année 2010, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir en 2010. Est-ce qu'il va y avoir des joies, des peines, des luttes? Il y a une chose qu'on a une certitude, êtes-vous d'accord avec moi, c'est que le Seigneur va être avec nous. Amen. C'est ça la certitude. Mais faire ce bilan de où qu'on est rendu, qu'est-ce qui a bien été dans l'année, qu'est-ce qu'on veut améliorer, c'est quelque chose de spirituel et biblique. La Bible nous enseigne que notre vie spirituelle est comme une course. N'est-ce pas? On cherche à avancer de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et ce que je veux qu'on fasse ensemble ce matin, c'est faire justement le bilan de notre foi. Et on va le faire pas avec ce qu'on pense ou avec ce qu'on dit connaître, mais on va le faire avec ce qu'on fait. Et le bilan est très, très simple ce matin. On va voir ensemble un passage dans la parole de Dieu. Mais le bilan est très simple. Pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'on fait concrètement? En d'autres mots, est-ce que j'ai une foi véritable? Est-ce que j'ai une foi vivante pour l'œuvre de Dieu? Et ce que j'avais sur mon cœur de vous partager ce matin, c'est justement pour éviter une des plus grandes tragédies de la vie, c'est de ne pas faire ce pour quoi on a été appelé. Si on a été appelé comme chrétien, la Bible nous enseigne à vivre avec une foi vivante comme chrétien. Tournez avec moi dans Jacques 2, verset 14. Et pendant que vous tournez, j'aimerais vous présenter un personnage. On va l'appeler pour ce matin, Monsieur X, puis disons que je vais personnifier Monsieur X. Et ce que vous allez faire, on va faire déjà un petit exercice ce matin. Vous allez me dire qu'est-ce qui manque à la vie spirituelle de cette personne-là. Okay? Puis peut-être qu'on, parfois, on s'identifie. Donc, j'ai fait profession de foi il y a une vingtaine d'années. À ce moment-là, j'étais tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Je voulais conquérir des montagnes, je voulais partager l'Évangile à toutes les personnes autour de moi. Mon verset préféré, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Puis avec les années, ben j'ai commencé à lire la parole de Dieu, à parfaire mes connaissances, puis des mots comme « imputation »,« sanctification » ne me font plus peur. Mais vous savez, avec les années aussi, je vois que l'Église, de plus en plus, est réservée au dimanche matin. Au fond, la semaine, on est tellement, tellement, tellement occupé. Puis le soir, ben, on se repose un peu, on a des loisirs, on travaille le jour. J'ai plus une relation aussi intense qu'avant avec le Seigneur, mais c'est normal, non? En fait, ça peut pas toujours être intense. Si je fais rien pour Dieu, ben c'est parce que j'ai plus vraiment le temps, puis j'ai tellement donné. Puis en plus, dernièrement, j'ai été une fois à Bouffe pour tous, puis les gens sont pas toujours gentils là-bas. Ou j'ai été à Pouponnière, puis hey, savez-vous que les couches, ça pue? Ou que j'ai même essayé des fois d'exhorter un frère ou une sœur, puis les gens m'ont dit, ben commence par corriger ce qui se passe pas dans ta vie avant de venir te mêler à ma vie. Au fond, c'est pas trop grave si je cherche pas parce que l'Église de l'espoir ici, c'est pas toujours parfaite. Puis j'ai donné dans le passé. Je suis prêt à recommencer un jour, mais pour l'instant, ben, je prends un break. Tu sais, je me dis, Dieu, il est patient avec moi. J'ai une couple de choses à corriger encore avant dans ma vie. Puis c'est le péché qui est en moi qui fait que je suis peut-être un peu vite parfois, mais il faut que je m'en remette à Dieu. Alors, quand j'entends les annonces, ouf, c'est long des fois. Puis je me dis, qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire passer? Qu'est-ce qu'ils veulent encore nous dire? Au fond, n'est-ce pas l'important, c'est de glorifier Dieu, de l'adorer, de lire notre Bible, de prier. Fin de parenthèse de ce personnage. Si je vous demandais, qu'est-ce qui manque à ce personnage-là? Est-ce qu'on serait prêt à dire, oui, il semble avoir un manque au niveau de la foi en action? Mais est-ce qu'on serait prêt à jusqu'à dire que ce qui manque à cette personne-là, c'est d'être un disciple de Christ? Car la Bible nous enseigne dans Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ce que ça veut dire, si je ne porte pas beaucoup de fruits, que je ne suis pas un disciple de Dieu ou que je ne glorifie pas le Seigneur, ça vaut la peine de de se poser cette question-là. D'ailleurs, si on posait la question à Jacques, dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, est-ce que je peux avoir une foi qui est vivante, de glorifier Dieu, sans avoir une foi qui agit, qui est en action? Ce qu'on veut au fond, ma prière, c'est qu'on puisse arriver devant le trône de Dieu un jour et qu'il dise pour tous et chacun ici, bon et fidèle serviteur, quoi? Rentre dans la joie de ton maître. Tournez avec moi donc dans Jacques 2, je vais lire du verset 14 au verset 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nous et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. » Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Un passage qui choque un peu, et on va prendre le temps de regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie. Mais ce qui est important avant de faire ça ce matin, c'est de dire à qui est-ce que Jacques s'adresse ici, dans le passage. En fait, toute l'épître de Jacques est adressée, on voit au chapitre 1, verset 1, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'était donc aux chrétiens qui vivaient dans la dispersion parce qu'ils étaient persécutés. Aujourd'hui, on va dire que les tribulations, les persécutions des chrétiens, des martyrs à ce moment-là ont été les graines qui ont fait pousser l'Église. Puis là, on dit, waouh, on regarde ça. Mais dites ça aux gens à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous enthousiastes à tout moment de dire, on va mourir pour Christ. Et certains, justement, commençaient à se décourager par rapport au ministère et à l'œuvre. Et on voit que Jacques ici s'adresse à eux et veut les encourager. D'ailleurs, on voit toute l'épître de Jacques comme un peu un électrochoc, un test de leur foi en leur disant, vous devez avoir une vie chrétienne victorieuse et il est très pragmatique, c'est très concret ici. Les mots sont durs, sont directs, c'est très concret. Puis on peut s'identifier un peu aux chrétiennes à ce moment-là. Parce que quand on partage notre foi aujourd'hui, oui, c'est peut-être plus la même persécution ou des souffrances physiques, mais êtes-vous d'accord qu'on vit parfois beaucoup d'indifférence? On vit de l'indifférence, on vit parfois aussi la moquerie. Et parfois, ça peut nous pousser ça aussi à se décourager dans notre foi chrétienne à avancer. Mais Jacques, ici, on voit au verset 14, si vous regardez au verset 14, il dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? » Il s'adresse donc ici à qui? Aux croyants, à ceux qui se disent, mes frères, mes sœurs, à ceux qui disent qu'ils sont dans la foi. Donc, ce que Jacques veut leur dire, c'est qu'est-ce que c'est une foi vivante? Puis ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder trois choses qui sont les traits d'une foi vivante. Puis ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est faites le bilan de votre propre foi par rapport à ces trois éléments-là. Où est-ce qu'on est rendu par rapport à notre foi? Est-ce qu'on a une foi qui est vivante? Et de comprendre ce que Jacques dit au verset 18, je te montrerai la foi par mes œuvres. Le premier point de la foi vivante, c'est une foi qui est dépendante de Dieu. Une foi qui est dépendante de Dieu. La Bible nous enseigne que la foi, c'est la certitude des choses qu'on espère et l'assurance des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Et si vous voulez un autre mot qui résume bien le mot foi, c'est le mot confiance. Confiance absolue en Dieu avec ma tête, mon cœur, mon âme, avec tout ce que je fais, que ça paraisse dans toutes mes actions. Et cette confiance au Dieu souverain qui est au contrôle de toutes choses me pousse à l'amour. Êtes-vous d'accord? La foi me pousse à l'amour, à avoir un amour profond pour Dieu, à être dépendant, c'est ça le premier point, dépendant de Dieu en toutes circonstances, parce que lui nous a aimés le premier et qu'il est venu nous chercher. D'ailleurs, si vous regardez avec moi au verset 23, Jacques le résume très bien au verset 23, ce principe d'être justifié, mais de croire en Dieu et d'être ami de Dieu. Verset 23. « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » N'est-ce pas que Dieu veut rentrer en relation avec chacun de nous? Amen! Dieu veut rentrer en relation avec chacun de nous et nous demande d'avoir une foi qui est dépendante de lui en toutes circonstances. Et on voit l'exemple ici d'Abraham qui fut appelé ami de Dieu parce qu'il a cru en Dieu. J'aimerais ouvrir ici une petite parenthèse et suivez-moi dans cette parenthèse. Pour bien comprendre le passage, il faut comprendre ce que veut dire le mot « justifié » dans ce passage. Parce que vous êtes peut-être comme moi, en lisant le passage, on se demande est-ce que les œuvres ont un rôle à jouer dans mon salut? OK? Puis, ce qu'il faut faire pour comprendre ça, c'est que dans les Écritures, et en fait, dans le mot grec, du mot justifié, le mot grec veut vouloir dire deux choses. Premièrement, quand on voit toutes les épîtres de Paul, par exemple, dans Romains 3, verset 28, où on voit Paul qui écrit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, on se dit, OK, c'est donc notre foi en Dieu, par la grâce de Dieu, qu'on est justifié, qu'on est acquitté. Et le premier sens du mot justifié, c'est d'être acquitté devant Dieu, que Dieu a payé la dette, qu'on est justifié. Et c'est grâce à la grâce de Dieu, en mettant notre foi en Dieu. C'est la façon que Paul l'utilise. Et quand on voit au verset 23, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça veut donc dire qu'il a été acquitté de sa dette à cause qu'il a fait quoi? Qu'il a cru en Dieu. Donc, tout le monde a compris le premier principe, le premier mot justifié, acquittement. Deuxième façon d'utiliser le mot justifié, et ce qu'on voit surtout dans Jacques ici, c'est la démonstration de notre foi. C'est, qu'est-ce qu'on voit dans le passage ici? C'est les œuvres. Et si vous regardez avec moi au verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il est donc en train de dire ici que la démonstration de sa foi, c'est quoi? C'est ses œuvres. Donc, les œuvres ne pointent pas ou ne sont pas une partie de notre salut. C'est la croyance en Dieu, c'est notre foi en Dieu par sa grâce. Mais les œuvres sont donc là. Démonstration de notre foi en Dieu. Et d'ailleurs, quand on regarde dans Genèse, c'est très intéressant l'ordre logique des choses. On voit dans Genèse 15, verset 6, que Abraham crut à Dieu, le même verset qu'on voit ici, et cela lui fut imputé à justice. Et après cela, dans Genèse 22, on voit l'exemple où Dieu demande à Abraham et le teste en disant, viens, amène ton fils sur la montagne pour qu'il soit mis à mort. Donc, on voit la démonstration de sa croyance en Dieu avec ses œuvres. Voyez-vous le lien entre les deux? Et je ferme ici la parenthèse, mais c'est important parce qu'il y en a qui interprètent ce passage en disant « Oui, mais les œuvres ont un rôle à jouer au salut. » Non, les œuvres viennent par notre foi et notre croyance en Dieu. Mais est-ce que les œuvres sont une démonstration de notre foi? La réponse, c'est oui. Mais d'où provient cette source de faire ces œuvres-là? Ça vient avant tout, puis c'est le premier point, de notre dépendance envers Dieu. Est-ce que les œuvres, comme j'ai dit, pointent au salut? Non, mais démontrent notre salut, oui. Et si on prend l'exemple d'Abraham ici, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris son fils pour l'amener sur une montagne pour qu'il soit mis à mort. Je peux vous dire, moi j'ai deux jeunes filles, 2 ans et demi puis 1 an et demi, puis en lisant les passages, on essaie de s'identifier, on se met à la place des gens, puis on se dit, ouf, si Dieu venait un jour chercher une de mes filles, pour une quelconque raison, on voit dans Abraham, à la dernière seconde, on sait que Dieu l'a arrêté, mais disons que si on pousse l'exemple, que Dieu vienne chercher une de mes filles. Un exemple tellement, tellement, et vous êtes d'accord avec moi, tellement tragique. Tu sais, c'est rien de pire. On veut que vivre plus que nos enfants. On ne veut pas perdre nos enfants. Et je pense à Abraham ici qui, certainement qu'il n'était pas un cœur de pierre, mais au contraire, qu'il avait un amour inconditionnel pour Dieu, ça oui, mais qui avançait probablement avec confiance en Dieu, mais probablement avec une dose de « qu'est-ce qui va se passer? » N'est-ce pas? Faisait confiance en Dieu. Mais êtes-vous d'accord que ça prend une foi qui dépend concrètement tous les jours de Dieu pour être capable même de faire ce chemin-là? Vous êtes d'accord avec moi? Et je l'ai vu, il y a quelques années, je connais un ami proche qui a perdu son fils de 10 ans. Et je peux vous dire, c'est quelque chose, il n'y a rien de plus tragique que ça. Mais de voir la foi de cette personne-là à travers les années, c'est vraiment remarquable. C'est l'œuvre de Dieu qui permet ça. Et ça commence avec des petits pas, des petits gestes. Et si je demandais aujourd'hui concrètement dans nos finances, dans notre temps, est-ce qu'on est prêt à mettre Dieu au centre de nos finances, de notre temps, de ce qu'on fait? Je suis en train de préparer justement un des cours la gestion des finances et très vite dans le cours, il y a une décision qu'on doit prendre et qu'on doit signer. Qui est-ce que je suis prêt à signer que Dieu est le propriétaire de tous mes biens et que moi, je suis un intendant des biens du Seigneur. Mon rôle est de bien gérer ce que le Seigneur m'a donné, mais c'est à lui qu'appartient tout ce que j'ai. Est-ce que je suis prêt à signer ça ou est-ce que je me dis, non Seigneur, je te donne ma dîme, là déjà c'est bien, puis le reste, c'est pour moi. Ou est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je dépends de toi, j'ai une foi dépendante de toi, je veux m'en remettre à toi dans tous les gestes, toutes les actions de ma vie, et je suis prêt à signer ça. Et je pensais à un exemple concret de ça. Yannick n'est pas ici, donc je peux le dire. Vous vous rappelez, il y a une couple de semaines de ça, ça a été annoncé que Yannick, concrètement, vu la difficulté financière qu'on vivait en 2009, Yannick a décidé de prendre une partie de son salaire et de dire, bien, je n'y toucherai pas. Je pensais justement à dire, ça, c'est une foi qui dépend de Dieu. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de superflu ou beaucoup de luxe, mais c'est une foi qui dépend de Dieu, qui est prêt à dire, avec mes dîmes, mes offrandes, concrètement, est-ce que je suis prêt à ça? Et ça commence avec ça. Parce que ce qu'on est prêt un jour, est-ce que Dieu vienne chercher peut-être un être cher? Est-ce que ma foi reste intacte, dépendante de Dieu? Est-ce que je suis prêt à dire que Dieu, sans lui, j'ai de la misère à respirer? Que chaque jour, je m'approche devant Dieu, que je veux m'en remettre à lui et je veux avancer en 2010 avec l'aide de Dieu, en ayant une foi dépendante de Dieu. Et peut-être que certains disent ici, OK, c'est bien beau, l'exemple que tu utilises, c'est Abraham. Hein? Abraham, un grand héros de la foi, on le voit dans Hébreux 11, on le voit ici, un grand héros d'une foi vivante et tout ça. Mais savez-vous que Abraham était loin d'être parfait? On voit en fait deux exemples que je vais vous dire. À un moment donné, quand sa femme n'était pas capable d'avoir un bébé, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été vers sa servante pour avoir un bébé qui était Ismaël, qui allait causer bien des problèmes aux Juifs par la suite. Un manque de foi. Un autre exemple, à un moment donné, il voyageait dans une ville et il pensait que ça allait être plus simple de dire que sa femme, c'était en fait sa sœur. Hein, pour ne pas avoir trop de problèmes. Et d'ailleurs, ça lui a attiré des problèmes. Encore une fois, êtes-vous d'accord, un manque de foi. Mais le point central ici, c'est que si on a une foi dépendante de Dieu, c'est que malgré les luttes, les erreurs, les choses qu'on va faire, on va retourner vers Dieu. C'est ça le point central, d'avoir un amour tellement profond pour Dieu qui s'inspire du commandement de aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être, et qui me pousse par la suite à dire, Seigneur, je fais plein de péchés et quotidiennement, j'ai besoin de revenir à toi. Je veux avoir une foi qui dépend concrètement de toi. C'est la même chose, Rahab. Êtes-vous d'accord avec moi? Rahab, c'était quoi? C'était une prostituée. Elle est citée ici comme exemple d'une foi vivante et elle est citée aussi dans d'autres passages. C'était une prostituée. Quelle est la distinction ici? C'est qu'une foi dépendante de Dieu retourne vers le Seigneur, se repentit de nos péchés et veut avancer avec Dieu. C'est un amour pour Dieu qui aime Dieu de tout notre cœur, notre tête, de toute notre âme. Et vous savez, j'aimerais qu'on se mette en garde des fois de aimer Dieu seulement avec notre tête. Êtes-vous d'accord avec Dieu ou de connaître le Seigneur juste avec notre tête? J'ai déjà lu à quelque part que la distance entre le ciel et l'enfer était de 30 cm. C'est la distance entre notre tête et notre cœur. Et vous savez, dans le passage, si vous regardez au verset 19, qu'est-ce qu'on voit? Les démons croient en Dieu aussi et ils tremblent. Donc, croire en Dieu, c'est pas ça avoir la foi. C'est le début de la foi de croire en Dieu, mais les démons croient en Dieu aussi et ils tremblent. Ça s'arrête pas là. On veut avoir une foi qui dépend de Dieu avec notre cœur, avec notre tête, avec notre âme, dans chaque circonstance. Et ça veut dire vraiment prendre la décision en 2010 de dire, Seigneur, je veux commencer ma marche spirituelle avec toi à chaque moment. Puis je trouvais ça intéressant pendant le temps des fêtes, le 31 au soir, on était avec quelques amis, et c'était Bruno qui avait eu l'idée de dire, on va finir l'année dans la prière, les 10 dernières minutes, et de commencer la nouvelle année dans la prière. Puis je trouvais ça vraiment bien de dire, on commence l'année avec le Seigneur. Ce qu'on est prêt à dire ce matin ici, on veut commencer l'année avec le Seigneur en lisant sa parole. Et si vous dites ce matin, ben oui, je veux avoir une foi qui dépend de Dieu comme ça, mais je me sens tellement loin. Ça commence avec quoi? Dans la Bible, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Ça commence avec la parole de Dieu. La Bible nous enseigne dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je veux avoir une foi qui dépend de Dieu, n'est-ce pas que je dois commencer en lisant ma parole quotidiennement à chaque jour et de dire à Dieu, j'ai essayé tant de fois dans le passé de m'en remettre à toi. Je ne suis pas capable de mes propres forces. Seigneur, tout ce que je veux, c'est prendre cette décision ce matin, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu fasses ton œuvre avec moi et de commencer l'année avec une foi dépendante de Dieu, qui est le premier point. Donc, foi dépendante de Dieu, remplie de l'amour de Dieu. Le deuxième point qu'on voit dans le passage, si vous regardez avec moi au verset 15, on va commencer là, c'est une foi qui est agissante. Une foi qui est agissante. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et on voit la réponse au verset 20, qu'une foi comme ça est, regardez au verset 20, est quoi? Inutile, n'est-ce pas? Une foi comme ça, c'est inutile. Donc, la démonstration de notre dépendance, de notre foi envers Dieu, c'est une foi agissante, c'est les œuvres. Et pensez aux besoins autour de vous. Il suffit d'être à l'écoute. Déjà ce matin, je veux dire, Judith n'a pas demandé à personne, « OK, là, j'ai besoin d'aide et tout ça, mais j'espère que dans le cœur de chacun de nous, on se dise, « OK, c'est un besoin, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider la famille dans ce temps-là, faire des repas, toutes les sortes d'autres façons? » Mais les besoins sont là autour de nous. Êtes-vous d'accord? Ils sont là dans la ville. Pensez juste aux fois que quelqu'un à l'église vous a dit, il a fait partager un besoin, puis il a dit, « Peux-tu prier pour moi? » Puis qu'on n'a rien fait. Ou qu'on a peut-être dit, « OK, je vais prier pour toi. » Mais que si on regarde dans notre cœur, on n'a pas prié souvent pour cette personne-là. Ou que des fois, vous écoutez des besoins ici à l'église, que ce soit dans les annonces, dans les besoins, en partageant, ou dans votre petit groupe. On voit que dans les petits groupes, on partage les besoins les uns aux autres, on rentre en relation les uns avec les autres. Puis vous dites, ben que le Seigneur te bénisse, hein, qu'il soit avec toi. Un peu comme on voit dans le passage ici dans Jacques, n'est-ce pas? Vas-y, rassasie-toi, va en paix. Et mon père, quand j'étais jeune, me disait souvent, c'est l'invitation du batelier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est quelqu'un qui est sur un bateau au loin puis qui voit un de ses amis puis dit « Hey, viens-t'en sur le bateau avec moi » puis que le bateau est en marche sur le bord de l'eau. C'est un peu ce que dit le passage ici, n'est-ce pas? C'est de dire au fond, de voir un besoin et de ne pas y répondre. C'est de voir un besoin à quelqu'un au travail, de ne pas y répondre, à notre famille, avec nos enfants. Et parfois, avec les années, on peut avoir tendance à devenir, êtes-vous d'accord, parfois insensible aux besoins des autres, ou dire, oh, ouf, OK, c'est vrai qu'il y a un besoin, mais regarde, moi aussi j'ai des besoins, je suis occupé. Puis je réfléchissais, il y a quelques mois, j'écoutais un film, je ne suis pas un grand fan des chiens, je m'excuse pour ceux qui sont grands, qui aiment beaucoup les chiens, mais on écoutait le film, Catherine et moi, Marley et moi, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. C'est un film d'un chien qui, à la fin, bon, je ne veux pas gâcher le punch, mais il meurt. Et je me rappelle, moi qui n'aime pas tant que ça les chiens, je commençais à être sensible à ça. Puis quand je préparais ce message de partage avec vous ce matin. Je pensais justement à ce film-là, je me dis, on est sensible parfois à des films, des choses qu'on voit, on a même une petite larme de temps en temps, mais on est parfois insensible aux besoins des gens autour de nous. Puis si on fait un exercice ce matin, on va faire l'exercice ensemble. Tournez-vous à gauche, regardez la personne à gauche, tournez-vous à droite. Il y a probablement, certainement, une des deux personnes ici ce matin que vous avez regardé qui a un grand besoin. N'est-ce pas? Qui a un besoin soit de prière, qui a un besoin concret dans sa vie, qui a un besoin que probablement vous pouvez y répondre. Est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant en cherchant les besoins des autres, en ayant une foi qui est agissante? Et je trouve une image concrète qui résume bien ceci, et j'ai pris ceci de John Piper, c'est l'image d'une coupe. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, qui résume bien le lien entre une foi qui est dépendante de Dieu et une foi agissante. Une foi qui est dépendante de Dieu va remplir sa coupe de l'amour de Dieu. Remplir sa coupe de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu remplit la coupe, remplit la coupe, remplit la coupe. Et on sait que l'amour de Dieu n'arrête jamais. Êtes-vous d'accord avec ça? Une fois que la coupe est remplie, qu'est-ce qui arrive? Elle déborde. Savez-vous c'est quoi le service ou les œuvres ou le fruit? C'est ce qui déborde. L'amour de Dieu en moi déborde et m'amène à servir mon prochain. Maintenant, si je mets ma main sur la coupe puis que je dis, regarde Seigneur, là, je suis capable tout seul d'y arriver. Puis là, je serre, hop, la coupe descend. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Je deviens vide, n'est-ce pas? Je deviens prestarié, je commence à en vouloir aux autres, je suis sensible à toute la critique des gens autour de moi, un peu comme l'exemple que j'avais dit au début. Puis le point ici que je veux amener, c'est de dire, si on se remplit quotidiennement de l'amour de Dieu, ce qui va déborder, ça va être ce qui va être amené vers notre prochain. Et c'est ça le service. Et d'ailleurs, Jésus lui-même était l'exemple ultime de ça. Êtes-vous d'accord? Avant de monter sur la croix, on voit pas le Seigneur qui dit, je savais pas qu'il allait rentrer des gros clous, ça va faire mal, ça. T'sais, au contraire, il dit, je suis prêt à porter les péchés des pécheurs pour qu'ils soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. D'ailleurs, lui-même a dit dans Matthieu 25 que celui qui voit un besoin qui répond pas, c'est comme le renier. Et il nous enseigne aussi dans d'autres passages, par exemple dans Jean 15, que celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça vient de sa force de pouvoir faire ces choses-là, en se remplissant de son amour. Et il continue au verset suivant, Jean 15, verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Il y en a peut-être certains qui vont dire ici ce matin, oui, c'est lourd. Hein? Il me semble qu'on choisit les passages où Jésus est dur. Hein? Il dit que si vous demeurez en moi, vous portez du fruit. Ceux qui ne demeurent pas en moi, ils ne portent pas du fruit. Et d'ailleurs, on les jette au sarment. Et c'est comme nous, on fait. Hein? Si on avait des plantes, mon beau-père, il y a quelques années, a fait pousser des plantes de tomates. Ils ont poussé très haut. Il était 7 pieds d'eau. Savez-vous combien de tomates il y a eu? Aucune. Il ne savait pas qu'il fallait qu'il les émonde puis qu'ils restent le plus petit possible. Qu'est-ce qu'on fait avec ces plantes-là? Il n'y a rien à faire. On s'entend que ce n'est pas beau, c'est pas rien de plaisant. On les jette au feu. Et c'est ce que Jésus enseigne ici. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il me semble que c'est dur et ça l'est. Mais ce que Jésus, pourquoi qu'il nous dit cela? Pourquoi Jacques aussi nous enseigne ça dans Jacques 2? Mais vous voyez, dans Jean 15 au verset 11, Jésus nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Pourquoi est-ce qu'on enseigne ça ici? C'est pour que notre joie soit parfaite. Parce que si on se remplit de l'amour de Dieu quotidiennement, où on dit, « Seigneur, je veux dépendre de toi et je veux que tu me remplisses de ton amour et je veux agir, je veux porter du fruit. D'ailleurs, je peux rien faire d'autre. Si je me remplis de l'amour de Dieu, que ça devienne comme un feu dévorant, à un moment donné, bien, ça finit par avoir un effet. Je veux agir et je veux parler de Dieu aux gens autour de moi. Je veux aider mon prochain concrètement. Je veux agir et pour que ma joie soit parfaite. Et si vous voulez commencer cette année en disant, vous voulez avoir la joie, commencez en vous disant, je veux avoir une foi vivante qui dépend de Dieu et qui est agissante. Mais ça commence par être à l'écoute. comme j'ai dit tantôt, il y a tant de besoins ici à l'Église, dans votre famille, dans votre petit groupe. Il suffit à ouvrir nos oreilles. Puis c'est drôle, tout d'un coup, quand on commence à ouvrir les oreilles, on voit qu'il y a des besoins partout dans des gens autour de nous. D'ailleurs, pour ceux qui disent « Oui, mais j'en vois pas encore de besoins », commencez avec ce pourquoi vous critiquez. Si vous critiquez quelque chose, peut-être que vous dites « Il me semble qu'à l'Église, ça serait bien s'ils commençaient à faire ça. » Est-ce que ça se peut que ce « ça » soit la chose que Dieu a mise sur votre cœur pour que vous serviez dans l'Église? Avez-vous pensé à ça? Peut-être que c'est ça que Dieu vous appelle. Mais ça commence avec une prise de conscience ici que si vous êtes ici ce matin, que vous êtes ici à l'Église de l'Espoir, que vous êtes les personnes les mieux placées pour faire avancer l'œuvre de Dieu ici à Longueuil. Êtes-vous convaincu de ça? Pourquoi? Parce que c'est vous que Dieu a placé ici. Avec toutes nos imperfections, chacun de nous, c'est Dieu qui nous a placés dans sa souveraineté ici. Et donc, c'est dans son plan divin que chacun de nous, on soit à l'œuvre pour l'œuvre de Dieu et qu'on fasse partie du corps de Christ. À l'Église ici, il y a plein de besoins. On voit dans la pouponnière, que ce soit à bouffe pour tous, pour évangéliser, pour parler de Dieu aux gens autour de nous, pour donner la nourriture. On voit des besoins, peut-être pour certains qui veulent enseigner aux enfants, dans la chorale. Plein d'autres besoins qu'on peut voir, d'aider les gens dans nos petits groupes. Et peut-être que vous vous êtes dit, « Ah ben, il me semble que je connais les ministères à l'Église, mais je trouve pas encore ma place. » Bien, je vous encourage à peut-être inventer quelque chose. Et je vais donner un exemple concret ce matin. Dernièrement, on est en train de discuter avec quelques personnes ici à l'Église, de dire, on aimerait ça partir un groupe pour les femmes le mercredi matin, ou peu importe, pour avoir une heure d'aérobie par un professionnel qui va faire un temps d'aérobie pour les femmes qui peuvent venir ici à l'Église, prendre du bon temps ensemble, et par la suite, qu'il y ait un petit partage on regarde la parole de Dieu, il y a un partage pour les femmes, et que les femmes puissent discuter les uns avec les autres. Pas un ministère traditionnel, vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, un ministère qui, on croit, répond à un besoin. Il peut y en avoir tant d'autres ministères. Commencez par qu'est-ce que Dieu met sur votre cœur? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Et pour cela, il faut être à l'écoute. Et ce que Dieu nous demande ici, c'est quoi? C'est d'agir, d'aller vers de l'avant. Et vous savez, toujours plus facile, vous êtes d'accord avec moi, de tourner une auto quand elle est en marche. Êtes-vous d'accord avec moi? Je pense qu'il y en a qui ont essayé de tourner une auto quand elle est arrêtée. C'est plus facile de dire, Seigneur, je veux avancer par la foi. Je veux avoir une foi qui voit les besoins, qui dépend de toi, mais qui agit et qui par la suite, si je me dis, je suis pas sûr que c'est ça, bien, quelque chose d'autre, je vais tourner un petit peu, puis je vais me réajuster, puis je vais me réajuster. Mais le but, c'est quoi? C'est d'agir. Au lieu d'attendre, un peu comme mon exemple du personnage au début qui dit, oui, j'attends de voir, l'auto est arrêtée, je vais attendre de savoir où est-ce qu'il faut que j'agisse, Seigneur, mais j'ai le temps encore. Le Seigneur nous demande d'agir, soit un disciple de Christ. Mais en même temps, on peut tomber dans le piège qui est quoi? D'en faire trop, n'est-ce pas? On peut tomber dans le piège de dire, Seigneur, je veux agir, puis je vais en faire plein d'affaires. Je vais faire tellement d'affaires, Seigneur, que je vais commencer par penser que s'il y a plein de belles choses qui se passent, c'est grâce à moi. On peut tomber dans ce danger-là de dire, il y a plein de belles choses, je m'occupe de ci, je m'occupe de ça, puis Seigneur, c'est grâce à moi. Qu'est-ce qui arrive souvent quand ça arrive, ça? Êtes-vous d'accord que le découragement n'est pas loin? Parce que les critiques arrivent, puis là, on n'est plus en train de puiser notre amour dans Dieu, puis dire, Seigneur, je veux dépendre de toi, c'est ton œuvre, et je suis qu'un serviteur pour faire avancer ton œuvre. Mais non, j'embarque dans une roue qui cherche juste à faire plein de choses, qui cherche à agir, qui fait plein d'activités. Mais est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, je veux chercher ta volonté, je veux agir, mais en me remplissant de ton amour? Et d'ailleurs, il y a dans 1 Corinthiens 13, verset 3, c'est très intéressant comme passage qui illustre bien ceci. Je vous le lis. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. » Ça veut donc dire que le Seigneur nous demande de quoi? D'avoir une foi qui dépend de lui, remplie de son amour, qui agit avec amour, qui déborde en agissant vers les autres. C'est ça une foi qui est vivante, une foi qui dépend de Dieu et qui agit, qui met Dieu au centre de notre vie et qui se dit, c'est pas par mes forces. Et je peux vous dire, il y a quelques années, je m'occupais d'une troupe de théâtre À un moment donné, les choses commençaient à moins bien aller, puis c'était difficile, puis on cherchait du monde, puis tout ça. Puis je me rappelle, j'allais vers le Seigneur et je disais au Seigneur, « Seigneur, j'essaie de faire ta volonté, c'est frustrant. Il me semble que on donne du temps, puis c'est pas tout qui marche parfaitement. » Puis je pense que le Seigneur, ce qu'il avait à me montrer à ce moment-là, c'est de dire, « C'est mon œuvre. C'est pas ton œuvre, c'est mon œuvre. Ton rôle est d'agir. » Mais c'est le Seigneur qui fait grandir, c'est le Seigneur qui fait pousser. Notre objectif, nous, c'est d'être un serviteur de Dieu, d'agir, de voir les besoins d'agir et de laisser Dieu, lui qui va agir dans son œuvre. Donc, premier point, c'est une foi qui est vivante, c'est une foi qui est dépendante de Dieu. Deuxième point, une foi vivante, c'est une foi qui est agissante. Troisième point, c'est une foi qui est persévérante. Si vous regardez avec moi au verset 17... Dans Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et au verset 26, on voit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est un non-sens de dire qu'on a une foi qui est morte? C'est rien, c'est pas une foi. C'est une foi morte, c'est... C'est pas la foi. Justement, c'est pas une foi qui est vivante. Et la Bible nous enseigne à travers les Écritures que croire en Dieu, c'est de persévérer, de dépendre de Dieu à travers le temps. Si on regardait Jean 3,16, qui est capable de réciter bien fort Jean 3,16? Quiconque croit en lui, est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est à un moment magique, ultime, puis après ça, tout est beau, on fait ce qu'on veut, on n'a pas des œuvres ou des œuvres sont mortes? Le principe ici, comprenez-vous, c'est une foi qui agit, persévère, qui continue à croire en Dieu. Et d'ailleurs, le mot « croire » dans la Bible veut dire une continuité aussi dans le temps et qui agit beaucoup plus que juste intellectuel. Êtes-vous d'accord avec moi? On avait vu tantôt les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Donc, c'est une foi qui persévère à travers le temps. On voit que le Seigneur Jésus revient souvent là-dessus. Dans Matthieu 10, 22, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais peut-être qu'il y en a certains ici qui disent, « OK, c'est beau, mais comment on fait pour avoir la certitude de notre salut? » N'est-ce pas? Pourtant, la Bible est claire que Dieu connaît ses brebis, ils entendent sa voix et elles le suivent. Et personne ne les ravira de sa main. Ça veut donc dire, à quelque part, qu'on peut avoir la certitude qu'on entend la voix de Dieu, mais il y a un processus. Avez-vous compris? Et elles le suivent, exactement. Donc, elles le suivent et personne ne les ravira de sa main. Ça veut donc dire que nous voulons avoir la certitude de notre salut. Est-ce qu'on a mis notre foi en Dieu, de dire, « Seigneur, je veux dépendre de toi, je veux me repentir de mes péchés, je veux marcher avec toi. » Oui, certainement que chacun d'entre nous, et moi le premier, on fait régulièrement des péchés, on doit s'en remettre à Dieu et dire, « Seigneur, par ta grâce, j'ai besoin que tu viennes laver mes péchés, je veux me repentir de mes voies, mais Seigneur, je veux dépendre de toi. » Et je veux agir. Sinon, mon corps est démangé. Je suis pas capable, Seigneur, de dire que je reste tranquille. Je dois faire quelque chose. Et ce que cette forme-là prend, c'est parce que tu m'as aimé, Seigneur, et je dépends de toi qui me pousse à agir et qui me pousse à persévérer. Et si vous vous rappelez l'exemple que j'ai utilisé tantôt de la personne qui, à un moment donné, se décourage avec les années, c'est tragique, ça. On ne veut pas arriver devant le trône de Dieu et dire un jour, « Oui, Seigneur, mais tu sais, il y avait telle raison, c'est parce que telle personne n'était pas gentille avec moi ou à un moment donné, c'était fatigant, là, ça ne me tentait plus. » Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Ce qu'on veut dire, c'est tous ensemble ici, n'est-ce pas, de dire que le Seigneur nous dise, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le Seigneur nous enseigne, on veut avoir une foi qui est vivante, une foi qui n'est pas morte. C'est une foi qui agit, qui dépend de Dieu et qui persévère. Mais ça commence avec une décision. Et ce matin, je veux vraiment qu'on prenne le temps de prier aussi, puis prendre une décision ensemble, tout c'est pour chacun, de dire, qu'est-ce que je suis prêt à faire, moi, cette année pour 2010? Au fond, ça va être quoi 2010? Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ne croient pas aux résolutions de nouvelle année, qui ne croient pas, hein, parce que tout le monde se dit, ah, de toute façon, ça n'arrêtera pas. Donc, je n'appelle pas ça une résolution. Voyez ça comme un objectif ou une priorité ou comme un refocus pour l'année 2010 où vous dites, Seigneur, tu sais, je prends cette décision aujourd'hui, ce matin, de dire, je vais m'en remettre à toi, avoir une foi vivante qui dépend de toi, mais je suis pas capable d'y arriver par mes propres forces. Oui, je vais prendre du temps avec la parole de Dieu, en lisant la Bible, je veux agir dans peut-être un ministère ou quelque chose que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, mais j'ai besoin de ton aide. Et si c'est ça votre prière ce matin, pour qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on voit dans Jacques 2, au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Nous voulons avoir une foi qui est parfaite ou dans le contexte complète, c'est une foi qui agit avec les œuvres. Est-ce qu'on est prêt à dépendre de Dieu? Quand on va passer l'année puis qu'on va revenir à la fin de 2010, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit le résumé de votre année 2010? Est-ce que c'est une foi qui est vivante, qui dépend de Dieu, ou est-ce qu'une foi qui, au fond, est morte, comme on le voit dans le passage ici, qui est nonchalante? Est-ce que vous êtes prêts à dire, ce matin, je désire avoir une foi vivante? Prions ensemble. Oui, Seigneur, parfois, on avance dans notre vie spirituelle, Seigneur, mais combien c'est difficile. On vit des moments parfois de découragement ou... Mais Seigneur, on a tant besoin de toi, que tu viennes nous remplir de ton amour, que tu agisses. Viens nous transformer, Seigneur, qu'on puisse avoir une année 2010 avec une foi vivante qui dépend de toi. Comme une biche qui soupire après d'un courant d'eau, Seigneur, notre âme veut soupirer après toi. Et qu'on puisse être appelé un jour, comme on voit dans le passage où Abraham crut à toi, cela lui fut imputé à justice.